Egunon deneri, bonjour à toutes et à tous, c'est à Ongi Etori dans ce nouveau podcast du groupe citoyen Elgarrekin. L'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité municipale actuelle une liste qui est menée par l'actuel maire de Rune, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir à vous, les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose de rencontrer aujourd'hui, l'une de celles qui a participé activement à la vie municipale ces 6 dernières années, Mirentxu Aramendi. Mirentxu, egunon.
Egunon.
Alors Mirentxu, après un rapide passage à Hendaye, tu as grandi à Urugne, près de la ferme Ibildoch, dans ce qu'on pourrait appeler une zone géographique non répertoriée, puisque ce n'est ni Olette, ni Le Bourg, ni Berrueta. Alors aide-moi, où est-ce qu'on peut situer Ibildoch?
Oui, j'ai eu du mal à répondre. Alors je dirais que c'est plutôt Herbourg, mais c'est vrai que on pourrait dire qu'on est un peu un quartier, pas indépendant, mais un peu comme Astérix Obélix. Alors je ne sais pas si je dois être fière ou si aucun quartier voisin ne veut de nous. Ah, en tout cas, voilà, on est
un peu
à part. Ouais.
Et bon, c'est quand même une ferme emblématique à Urugne. Pour moi, c'est Ibildoch, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est ton père qui a grandi là?
Oui, mon père est l'aîné de... Enfin, moi, j'en ai connu 7, mais ma grand-mère a eu 11 enfants. Oui. Donc, il y avait des jumeaux, donc 10 grossesses. 7 enfants, donc évidemment, grande famille. Après, ils ont un peu tous construit autour, donc une vie un peu de quartier.
Et tu as connu cette ferme en activité, on va dire, agricole?
Mon grand-père avait des vaches. Moi, quand je suis née, il n'y avait plus. Il y avait encore l'étable. Mes cousins ont joué à Cola Maillard au milieu des vaches. Ma sœur a eu quelques petites anecdotes là-dessus. Moi, j'ai échappé à ça. Je suis arrivée, il n'y avait plus de vaches.
Alors, tu as été à l'école publique du Bourg. Tu faisais aussi des activités après l'école, le week-end, quand tu étais enfant ou jeune?
J'avais peu d'activités. J'étais très timide. Donc, oui, il y avait l'école. En dehors, les activités, j'en faisais pas beaucoup. Après, évidemment, dans le quartier, j'avais mes cousins à côté, cousins, cousines. Donc c'est ça, c'est des cousins, ça a aussi des amis pour certains. On grandit un peu tous ensemble et puis la vie, elle se fait un peu là.
Oui, et tu gardes de bons souvenirs?
Oui, de très bons souvenirs.
Très bons souvenirs. Alors en préparant cet entretien, j'ai su que tu avais fait des études en biologie, puis tu t'es réorienté vers des études d'infirmier. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement?
Alors oui, c'est vrai qu'après, j'ai fait un bac scientifique, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, on est souvent un peu perdu, on ne sait pas vers quelle direction aller, je m'étais dit que j'allais peut-être faire médecine, on n'avait pas trop de moyens, je ne savais pas si j'aurais suffisamment d'argent pour payer, il fallait des cours particuliers à cette époque-là. Je me suis dirigée vers la biologie parce que ça m'intéressait beaucoup, et j'y ai quand même passé 5 ans.
Ah oui?
Ouais. J'ai à l'époque, c'était encore DEUG licence.
Ouais.
Et c'est quand je suis arrivée au DEA que c'est passé master recherche.
Master. Mmh.
Donc j'ai une licence biologie cellulaire et physiologie, parce que j'étais passionnée de génétique. Donc j'ai fait quelques choix. Et après, j'ai fait un master recherche sciences de l'aliment nutrition, qui, voilà, sur le moment, ça me paraissait très intéressant. Et j'ai fait un stage à l'INRA de Saint-Pé. Et voilà, après, j'ai essayé de assez vite trouver du travail, puisque ça me semblait pas très concret vers quoi je me dirigeais. Oui. J'aurais dû faire une thèse. Et j'ai essayé de postuler sur beaucoup de...
Puis au bout d'un moment, j'imagine qu'on a envie de s'émanciper aussi,
oui,
d'avoir
ça.
Son indépendance.
Et puis je voyais aussi d'autres personnes qui avaient du mal à trouver du travail, même en faisant une thèse et qui continuaient. Donc j'ai essayé d'en trouver. Évidemment, je savais très bien que ça ne serait pas ici, hein, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. J'ai postulé partout en France. Et donc, j'ai fait des petits boulots en attendant. Donc, j'ai livré les annuaires sur Urugne, j'ai fait de l'aide à domicile. Pendant un an, même un peu plus d'un an, j'ai fait le ménage à Point P ici. Et voilà. Et c'est après, en fait, quand ça faisait plus d'un an, je me suis dit, maintenant, je ne vais pas être recrutée. S'ils prennent quelqu'un sans expérience, ils vont plutôt prendre quelqu'un qui est nouvellement diplômé et pas moi. Donc,
Tu t'es réorientée.
Oui, je me suis dit, je vais prendre un métier qui me plaît, parce que c'est quand même un métier où il faut avoir une vocation, on ne peut pas le faire par hasard.
Tout à fait.
Mais où j'aurai du travail ici ou ailleurs, quels que soient mes choix.
Et c'est le côté humain, aide à domicile, qui t'a peut-être attiré vers cette branche?
Oui, c'est ça. Quand j'étais aide à domicile, il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas aide-soignante? Et je me suis renseignée, à cette époque-là, en fait, si on faisait une année infirmier, on pouvait être aide-soignant.
Oui.
J'avais déjà fait 5 ans d'études.
Et tu avais un bagage là déjà important d'études.
Ouais. Bon, du coup, qui n'avait rien à voir. Non. Mais ben, je me suis renseignée. En fait, il restait une semaine pour s'inscrire à l'école d'infirmiers de Bayonne. Et j'ai passé le concours dans la
l'occasion.
Semaine.
J'avais
peu d'espoir parce qu'on était très nombreux et que moi, j'arrive un peu comme ça. Et puis finalement, ben, j'ai été retenue.
Donc aujourd'hui, tu gardes des regrets ou en tout cas, tu te dis qu'un jour, tu reviendrais vers cette branche-là au niveau professionnel ou tu gardes plutôt cette branche maintenant, bon, ben, avec de passion ou,
Au départ, j'avais des regrets quand surtout je faisais des études là, infirmière parce qu'il y avait certains sujets qui me parlaient
et
où je me disais, ben oui, ça c'est mon ancienne vie. Après là, c'est quand même assez différent, donc c'est une bonne période. Après, je n'ai pas pratiqué ce métier-là, donc j'ai l'impression d'avoir perdu mes connaissances. Donc, je ne me sens pas légitime après repostuler sur ces choses-là. Des fois, j'ai des regrets sur mes choix en biologie, parce que, évidemment, on se spécialise vraiment dans un domaine. Et là, quand je vois dans la nature, je me dis peut-être que j'aurais plutôt dû faire la biologie des organismes ou quelque chose plus en lien avec le vivant.
C'est jamais évident de choisir son orientation. On est jeune quand on nous demande de le faire aussi. Ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas ce recul.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, quand même, tu travailles depuis 2010 en soins palliatifs à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de ce service ?
Oui, du coup, je suis arrivée en 2010 à la clinique de Saint-Jean. Au départ, je n'étais pas en palliatif. J'étais roulante sur un médecine en chirurgie. Et puis, j'ai découvert les lits identifiés sans palliatif qu'on a, l'accompagnement de ces personnes, de leurs familles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de pouvoir justement... les accompagner au mieux. C'est pas que des symptômes. Là, oui, il y a la douleur physique, mais il y a la souffrance psychologique. Alors, il y a des phrases un petit peu bateau sur les soins palliatifs. On va dire, c'est quand il n'y a plus rien à faire qu'il y a tout à faire. Mais effectivement, c'est un peu ça. Je ne suis pas juste là à leur tenir la main. C'est les accompagner au mieux.
Donc, oui, c'est des moments très importants aussi où il y a la famille aussi souvent des patients
qui
est là.
Oui, c'est ça. C'est des moments qui sont riches en émotions et c'est des échanges intenses et qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres services où les patients, on a moins le temps de les connaître. Les gens passent. Moi, j'aime bien avoir ce temps de mieux les connaître. On les voit, ils partent chez eux, ils reviennent plus tard et on les accompagne jusqu'au bout.
Alors, avant de poursuivre, je te propose de passer à un autre jeu que tu connais maintenant, le plutôt ça ou plutôt ça. Je te donne deux propositions, tu dois en choisir qu'une seule. Tu peux évidemment te justifier, car choisir, c'est renoncer. Allez, c'est parti. On commence gentiment. Plutôt danse basque ou reggaeton ?
Alors là, c'est difficile. la danse basque, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait évidemment dans toutes les fêtes de village. On fait moins de reggaeton.
Oui, sur la place du Rhin, on fait moins de reggaeton, peut-être dans d'autres lieux.
Peut-être au Bertioli, je dirais danse basque sur la place et reggaeton au Bertioli.
Reggaeton au Bertioli, très bien. Plutôt un repas entre amis ou une soirée au calme ?
Or, entre amis, ouais. Amis, famille.
Un repas entre amis. Avec, on amène de quoi partager ou il y en a un qui invite, il prépare tout ? T'es plutôt celle qui prépare tout ou celle qui se fait inviter ?
Alors, moi, je suis plutôt... il vaut mieux pas que j'amène, parce que sinon, faire une petite indigestion. Donc, moi, je veux bien aider à beaucoup de choses, mais sur la cuisine, c'est pas mon point fort.
Très bien. Plutôt une randonnée en montagne ou une journée à la plage ?
Plutôt randonnée en montagne.
Un coin où tu aimes te ressourcer à Urugne ?
Alors là, malheureusement, je prends pas assez de temps, mais si je devrais dire un coin que j'aime beaucoup, c'est en montant de Diachola, quand on va vers la Petite Rune, et... On passe la forêt, là on monte et un passage difficile. Et quand on arrive et qu'il y a cette ouverture sur la vue, on voit la rune, la petite rune. Et voilà, là il y a peut-être aussi on reprend le souffle et on en prend plein les yeux.
Et la randonnée, plutôt en solo ou en groupe ?
En groupe, c'est bien. Et en solo, ça permet plus de liberté de partir dès qu'on a un petit moment.
Très bien. Musique, plutôt Eatsé Shutaga, plutôt Eatsé Shukara ou Shutagar ?
Aïe. Ah. Shutagar quand même.
Quand même.
Ouais.
Bon. Ça aurait été plus facile de choisir entre Gojira ou Rammstein ?
Là, ça veut dire. J'aurais dit Rammstein, mais malheureusement, sur le style musical, mais par rapport à tout ce qu'on sait du groupe Rammstein et de leur comportement, beaucoup moins. Donc, mais c'est sur le style musical où, effectivement, je vais aimer quand c'est un peu plus. Ça bouge plus haut, que c'est plus punk.
Et enfin, pour terminer, parce que je sais que tu aimes ces passions-là, plutôt un projet couture ou une séance de dessin?
Pour deux choses différentes. Je dirais couture si c'est plutôt dans un aspect méditation, parce que ça procure un peu comme ça une relaxation. Et si c'est dessin, ça va être un peu différent, ce côté plus créatif. Mais dans l'idéal, j'aimerais allier les deux.
Alors j'ai posé cette dernière question parce que je sais que tu es passionné de dessin, de peinture, de couture, bref, tout ce qui est créatif. Est-ce que ces activités t'aident à voir le monde différemment? Est-ce que ça t'aide? Voilà, tu parles de méditation.
Oui, là aussi, je sépare en deux parce qu'il y a les deux axes. Alors, c'est vrai que c'est tout ce qu'on fait quand on est petit et qu'on abandonne à l'âge adulte. Alors, j'ai abandonné aussi. Et là, il y a quelques années, un petit retour autour de mes 30 ans, peut-être un retour à l'enfance. Mais je me suis remise au dessin. J'aime beaucoup ça, dessin et puis peinture. Ça permet... Alors, en fait, au départ, je dessinais beaucoup d'après photo, parce que c'est plus facile. Mmh. Et j'aime beaucoup faire les portraits, les personnages. Mais assez vite, je me suis dit que les photos, en fait, il y a déjà le point de vue du photographe, il y a déjà un point de vue artistique, donc je voulais m'en défaire. Donc je suis partie plus sur des carnets de voyage, j'ai fait du modèle vivant aussi, pour pouvoir...
Et tu les partages ou tu les gardes dans un tiroir?
Très peu, un petit peu de partage, mais c'est beaucoup dans les tiroirs.
Bon, on va en demander un peu plus la prochaine fois.
Non, mais en fait, pour juste terminer sur ça, en fait, le fait de faire du modèle vivant, c'était vraiment... En fait, dans mon idéal, ça serait de pouvoir dessiner directement les gens. Il y a une artiste, mettons sur Toulouse, Stéphanie Ledoux, qui fait des carnets de voyage. Elle voyage, elle voit les gens, et même quand il n'y a pas la même langue, elle peut dessiner, il y a un partage qui se fait. Moi, je ne vais pas oser en fait, sortir.
C'est universel comme.
Oui, c'est ça, ça se reconnaît tout de suite. Donc, les paysages, c'est plus facile de sortir son carnet. Évidemment, il est encore plus facile de sortir un appareil photo et de faire une photo, mais ça permet en fait de s'ancrer dans le moment, que ce soit la partage avec une personne ou de voir un paysage. Jamais en fait, on pourra traduire les couleurs qu'on a vues. Sur une photo, tu peux regarder la photo plus tard, bon, mais ça donne pas la même chose. Alors que quand tu l'as peint, tu mets tes couleurs et c'est ce que tu ressens en fait quand tu vois des peintures de quelqu'un. Il y a pas juste le paysage, il y a l'émotion qui a été ressentie en fait sur le moment. Et ça ancre le souvenir.
Alors passons à ton engagement associatif à Urune. Tu fais partie de l'Arunkop depuis sa création, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette aventure coopérative?
J'ai entendu parler de la création de l'Arunkop quand j'étais pile moi dans un moment où j'essayais de réduire mes déchets. Donc je regardais mes poubelles, que ce soit ordures ménagères ou recyclage, et je me disais, qu'est-ce que j'ai le plus dans mes poubelles? Et c'était l'objectif suivant de, c'est celui-là qu'il faut diminuer. Et j'étais dans un moment où pour arriver au zéro déchet, il fallait que j'achète beaucoup en vrac. Je allais sur Saint-Jean, j'allais sur Saint-Pé. Bon, là, le côté
Larocop... Dans les magasins spécialisés, oui.
Ouais, c'était beaucoup plus pratique. Tout était au même endroit. Je pouvais acheter en vrac. Évidemment, par rapport à mon parcours, que ce soit scientifique ou dans la santé, les produits bio, j'en étais convaincue. Et là, ça regroupait tout ça. Mm-hmm. Et puis, ce que je ne me doutais pas, c'est que ça permettait aussi des rencontres de gens d'Urune que je ne connaissais pas.
De créer du lien, découvrir des gens. Pour cela, tu as aussi siégé au comité de jumelage, c'est bien ça? Au bureau, je veux dire, du comité de jumelage à Urune.
Oui.
Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur
Alors, ce jumelage? Alors, je ne sais pas, au bureau, j'étais au conseil d'administration quelques années. Le jumelage, moi, j'ai toujours un petit peu baigné dedans. Mes parents en ont fait partie. Ils ont organisé la première fête de la bière en 77 à Béobi.
Ah oui.
Donc, ne calcule pas, je n'étais pas née.
Non.
Je ne suis pas... Voilà. Et après, on a toujours logé des gens puisque ils faisaient partie du jumelage. Donc, on a accueilli des Allemands. En 97, j'ai pu y aller moi-même grâce à Hiroshki. Et puis après, j'ai un peu abandonné ces liens-là. Mais il y a beaucoup d'Allemands qui viennent sur les fêtes d'Urune chaque année. Donc, avec mes cousins, on a commencé à y aller, nous, chaque année, au moment du Fasching, donc du jumelage là-bas. De façon non officielle.
Donc vous les accueillez dans votre principauté d'Ibildoch?
Alors ils sont beaucoup sur le bourg parce qu'eux ils préfèrent rester à pied dans le centre. Mais ils sont les bienvenus. et c'est après en fait que je me suis dit on fait ça de façon non officielle, mais en fait si on veut que les jeunes générations... En fait le jumelage permet de regrouper toutes ces expériences qu'on a tous de notre côté et de pouvoir le faire perdurer et qu'après ben, les jeunes prennent le relais.
Et oui, et c'est aussi l'objectif maintenant avec chez Goula.
Oui.
Tu as peut-être une anecdote avec toutes ces expériences, je ne sais pas, un truc qui t'a marqué dans toutes ces années-là.
Et oui, je t'aurais bien raconté, mais comme le podcast ne se fait pas en allemand, et puis de toute façon je ne parle pas, bon. Mais du coup on ne pourra pas parler d'histoire consciente.
Dommage, une prochaine fois. Aujourd'hui, tu es engagé dans la liste Elga Rekin. C'était déjà le cas lors de la mandature en cours, puisque tu es actuellement conseillère municipale. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ce mandat ?
Oui, je suis rentrée en 2020 pour aider dans le groupe Elga Rekin, puis j'ai accepté d'être en fin de liste. Puis malheureusement, Jean-Pierre a quitté le conseil municipal, donc j'y suis entrée. Et il y a 2 ans, j'ai pris la place de Julie, donc je suis passée déléguée à la transition écologique. Ce qui m'a le plus marqué, ce qui me vient tout de suite, évidemment, c'est l'équipe milieu naturel et le recrutement de la chef en transition écologique qui a permis l'Atlas de la biodiversité. C'est des projets, en fait, ils ont fait un travail qui est fabuleux. Et ça me fait partir vers un autre sujet, mais c'est grâce à la création de ces postes, en fait, qu'on a pu avoir des choses superbes qui ont été faites derrière. Donc, on a pu nous reprocher parfois d'avoir recruté ou trop recruté. Mais en fait, derrière des beaux projets, il faut mettre des humains qui puissent avancer sur ces projets. Et là, il y a eu des recrutements qui ont permis de faire naître des projets, de les faire avancer, voire de les finaliser.
Parce qu'il y avait un vrai manque
oui,
à Irune aussi.
Voilà. Et donc, moi, là, je parle évidemment de mon axe à moi, mais en fait, on pourrait parler de ça de façon beaucoup plus globale. Puisque le chef de service environnement et tous les services qui étaient déjà en place faisaient déjà un travail fabuleux. Hein. Mais la commune est grande, donc oui, il faut plus de monde, il fallait une équipe dédiée. Et si on voit de façon plus globale, on pourrait se dire, le service Euskara, que serait-il sans le recrutement de sa technicienne ?
Exactement. Tu seras chargée de nouveau de la transition écologique en cas de victoire du groupe Elga Rekin lors des prochaines élections municipales. Alors, en lien avec la précédente question, quelle est d'après toi la priorité dans ce domaine ?
La priorité, c'est de faire vraiment que la transition écologique, c'est un sujet transversal et donc qu'il ne soit oublié nulle part et que tous les projets, en fait, soient vus sous le prisme de la transition écologique afin que, voilà, on n'oublie rien et que tout soit passé par ce filtre-là.
Mmh. Ouais. Mmh.
Et après, évidemment, c'est continuer tous les projets qu'on a enclenchés. Et puis, la rénovation énergétique des bâtiments, les panneaux photovoltaïques.
Très bien. Eh bien, Milenchu, Mileshker Hainitz, pour cet échange inspirant. Je sais que tu préfères a priori écouter les podcasts plutôt que d'y participer. Tu es toujours du même avis ?
Je suis toujours du même avis. J'écouterai mes colistiers, mais je ne pense pas que je m'écouterai.
Est-ce qu'il y a un podcast que tu écoutes souvent, en boucle ?
Alors, plutôt que podcast, je dirais qu'en ce moment, j'écoute... Il y a la dernière de Radio Nova qui passe tous les dimanches avec Pierre-Emmanuel Barré, Mireille Clompré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice, que voilà, j'aime beaucoup ce qui se fait. Et donc souvent, je l'écoute en différé.
Très bien. Mileshker, Milenchu.
Mileshker Soli.
On se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elga Rekin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site elgarekinuruna2026.eu. Mileshker, adieu.